La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com. I know
how it sounds. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice en compagnie de Max et Mel. Comment ça va?
Salut, ça va bien toi?
Ça arrête pas de bien aller.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Tu sais ce que j'ai fait un matin en me levant?
Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai flatté mon caillou magique ou ma pierre d'énergie, oui. Là, je sais pas comment on appelle ça.
Ouais, ton caillou magique.
Et je vais te dire une affaire, là. Depuis ce matin, je passe la plus belle journée de ma vie.
Oh! Est-ce que tu t'es couché avec des pensées positives?
Non, mais j'ai essayé fort.
OK.
C'est pas facile, on dirait que moi, le soir... Je fais une rétrospective de ma journée, puis c'est pas toujours nice.
C'est pas facile. Il faut essayer de laisser passer les pensées négatives, puis essayer de s'endormir avec des petites gratitudes de la journée, des petites choses qui nous ont fait plaisir, pour tenter de s'endormir là-dessus et au réveil, se réveiller avec les mêmes pensées. Mais je suis contente que mon petit caillou magique que je t'ai offert puisse, comme ça, là, te remettre dans le moment présent et te faire penser à être dans la gratitude.
Mais ça, c'est juste parce que je t'aime. Parce que n'importe qui m'aurait donné un caillou magique, il serait dans Garnotte avec les autres.
Je sais. Mais il est tellement mignon. Il y a des petits yeux et des petites pattes.
Ah, je le sais. C'est un peu...
Un jour, on va vous poster ça là, sur les réseaux. Le petit caillou magique de Max.
Il s'appelle Amy. Ou elle s'appelle Amy.
Oui, elle s'appelle Amy.
C'est selon le point de vue que vous voulez adopter. On est en 2024. Hein?
Ouais, Yel.
Yel Amy.
Yel.
Ou Adelph. Adelph Amy.
Adelphi.
Moi, j'ai appris ça dans une émission à Télé-Québec récemment, Au-delà du sexe.
Oui, ça a l'air que... Roberge.
Exactement, oui. Et Rosémée Témoré.
Oui, exact.
Ça a l'air que quand tu es une personne non-binaire et que ton frère ou ta sœur veut t'appeler par ta non-binarité, le terme à utiliser, c'est Adelphi.
Ah ben. On en apprend tous les jours.
Eh ben.
Good. Comme dirait PC Joli Cœur. Écoute, Max, ben moi, ça me fait plaisir de savoir que ma petite pierre t'aide comme ça à te remettre dans le moment présent et d'apprécier des petites gratitudes tout au long de la journée, en fait, de faire des moments de gratitude. Et c'est quelque chose que je veux vous inciter à faire davantage, mesdames et messieurs, puisque il n'y a pas d'effet secondaire indésirable lié à tout ça.
Non.
Ça ne peut qu'apporter du beau. Puis, c'est ça.
Et donc, on va prendre des questions du public. Là. Il y a quelqu'un là-bas. Salut! Salut! Qui te demande, toi, ta gratitude d'aujourd'hui, c'est quoi?
Oh, moi, là, en ce moment, là, je suis totale quétaine, vraiment, là, je te jure. Là, mais, je suis en amour, là, ça, tout le monde le sait. Mais je me suis procuré aujourd'hui une bague clitoris. C'est un petit cadeau que je me suis fait.
Ouais.
Oui.
Ben, oui, on s'est appelé tantôt, puis quand tu m'as annoncé la fabuleuse nouvelle, sur le coup, je me suis dit, une bague clitoris.
Oui.
Je pensais pas que tu allais la mettre dans le doigt, là, nécessairement.
C'est un beau petit bijou. Non, c'est un petit bijou, c'est une petite bague en forme de vulve, si on veut, avec un tout petit point très délicat. Et c'est un magnifique petit bijou qui a été créé par une artiste québécoise. Et je vais même vous la nommer parce que vraiment, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle s'appelle Najli. Donc, Najli.
Najli.
Sur les réseaux sociaux. Najli. Et vraiment, c'est de magnifiques bijoux.
Pourquoi tu as opté pour ça? Spécifiquement?
Je le trouvais beau.
Parce que c'était beau.
Oui, parce que c'était beau. Puis moi, je suis fière de porter une vulve. Mais je ne suis pas féministe.
Non.
Mais en fait, je me considère pas comme féministe.
OK.
Je suis parfois en accord avec elle. Parfois pas tant.
Oui.
Bref, je suis très fière de porter ma bague clitoris. Et moi, je trouve que le clitoris aurait dû être, découvert bien avant. Hein? C'est quand même dans les dernières années. Là, ça fait pas si longtemps qu'on
le Christophe Colomb du clitoris est passé là pas longtemps.
C'est en 98, si je ne me trompe. Là,
ils ont découvert le clitoris en 98.
Ils ont disséqué le premier clitoris.
Arrête donc, t'es-tu sérieuse?
Non, c'est pas des blagues. Là. On est allé sur la Lune. On n'avait pas encore disséqué de clitoris.
Wow!
Mais voilà. Donc, je suis bien contente de ça. Puis, je sais pas si tu as vu aux nouvelles, il y a le nouveau cadre de qui je parlais hier, qui donne des formations dans les écoles secondaires. La formation que j'ai suivie, justement.
Ah, j'ai vu ça passer.
Eh bien, elle était à Salut, bonjour. Donc, on a parlé de nouveaux cadres et de cette magnifique formation qui est donnée selon les règlements ministériels, finalement, dans les écoles secondaires. Et ça, vraiment, justement, on demande aux jeunes, à un certain moment, de dessiner un clitoris. Et tu n'as pas idée à quel point personne ne sait à quoi peut ressembler un clitoris. Tout le monde sait comment dessiner un pénis et ses testicules. Un clitoris, pas du tout. Les jeunes sont pas au courant. ne savent pas. Donc, il est temps.
Mais c'est un peu plus abstrait, à contrario d'un pénis, par exemple. Et le pénis, dans la culture populaire, surtout chez les petits gars, là, c'est drôle de dessiner des pénis. C'est un phénomène qui est drôle, qui peut être hilarant.
Mais dessiner un clitoris, ça ressemble beaucoup à un pénis.
Oui.
T'as le gland, t'as l'espèce de petite mini-verge, si on veut, et ce qui se retrouve dans les testicules, finalement, c'est ce qu'on retrouve dans les grandes lèvres.
Ouais.
Donc, de l'intérieur, c'est sensiblement la même chose. Ça se ressemble énormément.
Une espèce d'arche.
Oui, exact. Exactement. Donc, je trouve ça le fun que maintenant, on puisse l'enseigner aux jeunes secondaires, que les jeunes ne soient pas... qu'ils ne s'imaginent pas que c'est juste un petit poignot qu'on tapote comme une manette de Nintendo.
A, B, A, B, X, 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 X.
Ça va pas de bon sens. Mais non, bref, on est rendu là. Donc,
c'est une bonne chose. Bravo, c'est vraiment une bonne chose.
C'est vraiment une bonne chose, oui, exactement. Là, là, il y a une énergie dans ce studio-là, mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée. On a notre collaboratrice rayonnante, attrayante.
Allô, tout le monde.
Et le fun. Jen Gaudreau, détective privée.
Merci,
qui est spécialisée dans... qui est nichée quand même dans plusieurs domaines, dont l'infidélité.
Entre autres,
et là, ce soir, on y va sous forme de chronique, Jen, avec ta chronique sur la polygraphie.
Wow!
Ben oui, la polygraphie.
Parle-nous donc de ça.
Ça, tu piques ma curiosité.
Ben, je suis là pour ça, hein. Tu sais, j'amène ma couleur originale, mes sujets croustillants et toutes sortes de choses que les gens ne s'attendent pas. Et ça rejoint quand même tout le monde, à peu près n'importe quel sujet. Puis là, je me disais, comme première chronique, on commence à écrire. Tu sais, je me dis, bon. J'avais une couple d'idées, on s'est parlé.
Oui.
Puis là, je me suis dit non. J'ai dit, j'ai le goût de parler de la polygraphie. Parce que souvent, les gens l'associent un peu à, comme un détecteur de mensonges utilisé dans les enquêtes.
Polygraphie, c'est ça. C'est vraiment comme un... C'est un polygraphe, c'est pour détecter le mensonge, donc selon des réactions physiques du corps là, lorsqu'on se fait poser certaines questions.
Exactement. Si on veut trouver comme une définition, moi, j'aime toujours dans mes chroniques, on part du début, on définit, puis je vous explique une histoire. Fait que c'est pour ça que je voulais quand même faire plus sous forme de chronique ce soir. Si on peut dire une définition vraiment parfaite de la polygraphie ou détecteur de mensonges, je dirais que c'est un ensemble d'appareils qui mesure les réactions psychophysiologiques d'un individu lorsqu'il est interrogé afin de déterminer s'il dit la vérité ou il ment. Donc, un peu comme... comment ça fonctionne, le postulat en fait qu'on peut dire là, de la polygraphie, c'est que le fait de mentir va provoquer des réactions émotionnelles psychophysiologiques qui vont amener ainsi des manifestations physiologiques. Et par exemple, quand on est stressé, on va transpirer, notre rythme cardiaque va augmenter, nos pupilles vont être différentes. Donc, c'est un peu ce qui se produit puis ce qu'on va quantifier dans le détecteur de mensonges.
Déjà, la synergologie est une science qui étudie le comportement humain. Et lorsque quelqu'un ment, le regard, les yeux et les micros...
cutanés, qu'on appelle.
Oui, exactement. Les micro-grattages, là, les micro-démangeaisons font surface. Donc, en plus de ça, l'inspecteur ou le détective qui utilise le polygraphe, la personne qui est certifiée, finalement, peut en plus mesurer l'intérieur du corps. Parce que ça, ce sont des signes qu'on voit de l'extérieur.
Oui, oui, vraiment. Okay.
Et ça, c'est des choses qui sont utilisées, notamment dans les cas d'infidélité.
Oui, c'est ça. C'est que souvent, les gens, ils pensent juste qu'on l'utilise au niveau des enquêtes. Mais non, on l'utilise en fait, excusez-moi le petit manquement de terme, par rapport à des tests d'infidélité. Exemple, quand on a vraiment l'impression, puis c'est pour ça que je voulais commencer avec ça comme chronique cette année, je me disais, j'ai vraiment des madames ou des messieurs qui me téléphonent, ils l'ont encore dans la tête, ils se disent, je suis sûre qu'ils m'ont trompé. Ils vont dire qu'ils sont comme pas capables d'avancer avec ça, puis qu'ils en ont besoin. Puis j'arrive souvent à un moment donné à leur proposer, écoutez, est-ce que vous pensez que votre partenaire serait libre à passer un test de polygraphe?
Parce que là, toi, en tant que détective privé,
oui,
tu es engagé, par exemple, par un homme ou une femme qui doute de la fidélité de son partenaire ou de sa partenaire. Et durant le processus, tu peux proposer un test de polygraphie.
Oui, exactement.
Max, comment tu réagirais si tu étais accusé comme ça, en fait, si ta partenaire t'a proposé un test de polygraphie?
Bien, ça dépend. Je pense qu'en premier lieu, j'essaierai d'évaluer si ses inquiétudes sont valables, sur quoi ça s'appuie. Puis si ça fait longtemps qu'elle traîne ça et qu'elle est incapable de surmonter ces inquiétudes-là, je pense que oui, ça peut être un bon outil pour annihiler ses inquiétudes et ses peurs, oui, relativement à un événement spécifique ou à plusieurs événements spécifiques. Mais c'est clair que la première réaction que j'aurais, tu sais, là, j'analyse ça froidement, mm-hmm, mais la première réaction que j'aurais, je pense, comme un peu tout le monde, je ferais, ben là, si je l'ai pas fait, je vais être en tarnac. Et si je l'ai fait, ben, je vais avoir des sueurs froides.
Effectivement.
Puis je vais avoir la craque d'arrêt qui va mouiller vite.
Hey, mais quand on est rendu là dans un couple, là, c'est parce que ça va pas bien.
Ça va pas bien, mais c'est quand même une solution que les gens pensent pas. Mais c'en est une, tu sais, peut-être, parce que, tu sais, on en a parlé un peu d'infidélité. Des fois, ça s'est passé avant. Puis j'en ai souvent encore des clients que, tu sais, je veux dire, tranquillement, pas vite, de manière spontanée, on vérifie, c'est rien passé. Mais ils ont vraiment le désir sincère qu'il s'est passé quelque chose.
Ouais.
On dirait qu'ils sont pas capables d'avancer. Fait que des fois, ça leur...
C'est comme une façon d'acheter la paix, finalement, pour le partenaire qui est peut-être pas non, qui est peut-être non coupable, qui se dit, regarde, ça va l'apaiser.
Oui, mais c'est aussi lever la couverture sur des problèmes sous-jacents. Là. C'est-à-dire que si vous êtes rendu là dans votre couple, il y a un manque de communication grave.
Et de confiance aussi.
Il y a un manque de confiance qui est véritable. Alors, ça cache beaucoup d'autres problèmes. Est-ce que ça arriverait à régler tout ce qui va pas dans le couple? Ça peut peut-être mettre un baume sur ce que tu ressens par rapport à l'infidélité, mais tout le reste qui nous mène à passer un polygraphe, c'est ça le vrai problème, si je me trompe pas.
Ben oui, mais c'est une solution parmi tant d'autres. T'sais. Je veux dire, des fois, si on n'a pas trouvé vraiment ce qu'il nous faut pour passer par-dessus, pour certaines personnes, ça a fonctionné, pour d'autres, ça n'a pas fonctionné, mais ça existe. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens ne le savent pas. Et c'est sûr que moi, dans mon métier, c'est sûr que j'ai des images de Colombo, oui, et j'ai des histoires de Colombo. Ça en fait partie une. Le polygraphe, c'est quelque chose qu'on peut proposer au niveau thérapeutique pour l'infidélité, sur plein de choses aussi, des aveux que les gens veulent, que j'ai dans mes dossiers au niveau civil. Donc, tu sais, c'est quelque chose que les gens sous-estiment un peu. Là, dans...
Je lisais que les pourcentages de fiabilité, c'était entre 86 et 91. Est-ce que c'est vrai, ça?
Ça, faudrait vraiment, pour bien répondre à la question, parler à notre invité tout à l'heure qui va être là avec plusieurs années d'expérience.
Ouais. On a la chance d'avoir avec nous tout à l'heure John Galliano, qui est polygraphe certifié. Donc, tu vas nous parler de lui également.
Mais de deux choses l'une. J'imagine que, par exemple, lorsqu'un couple ou la fille demande à son chum de passer un polygraphe, est-ce que si jamais ça s'avère vrai, c'est un élément qu'elle peut servir dans une cause au civil, dans un cas de divorce, par exemple, que ça pourrait l'aider? Est-ce que ça pourrait être en sa faveur auprès d'un juge?
Ça, c'est toujours avec des aléas, mais ça peut amener certaines conclusions qui peut avoir un certain lien dans des causes civiles. Pas criminelles, mais civiles, oui.
Et la deuxième chose, toi, Mel, en tant que femme, tu m'as demandé de mon point de vue en tant qu'homme. Toi, en tant que femme, si jamais on est en couple, par exemple, puis je te demande de subir un polygraphe pour atténuer mes craintes relativement à une potentielle infidélité, comment tu te sentirais?
Bien, admettons qu'il n'y a pas d'infidélité, puis que j'ai déjà été dans une situation où j'avais un conjoint qui avait comme un gros, gros, gros manque de confiance en lui, tout ça, et j'avais tendance à acheter la paix. Et j'ai réalisé qu'en achetant la paix, ça faisait qu'empirer la situation. Acheter la paix, je dis par là, j'ai osé lui donner tous mes accès à mes messages pour qu'il voit que, bon, les personnes qui m'écrivent, c'est réellement des personnes qui demandent des informations, tout simplement, qui ont besoin de conseils ou des trucs comme ça par rapport à leur relation à eux. Là, moi, il y avait tous mes accès. Il y avait accès à mon téléphone en tout temps. Il y avait accès à mes messageries dans son téléphone. Il pouvait tout consulter tout le temps, là. Mais c'était ma façon à moi d'acheter la paix. Et j'ai réalisé que ça réglait rien. Absolument rien. Il allait toujours avoir des doutes, peu importe. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un qui a pas de confiance en lui et qui a pas de confiance en son partenaire ne guérira peut-être pas. Je sais pas à quel point... Je pense que je le ferais, puis je le quitterais ensuite.
Ah ouais?
Ça serait comme la dernière
lui montrer,
chance.
Ah ouais, tu mets tes couilles sur la table.
J'ai rien à
gâcher. À me reprocher. Ouais. Voici la preuve maintenant.
T'es allé
t'as
trop
pas
loin.
Eu assez... Exactement.
T'es allé trop
t'as
loin.
Pas eu confiance en moi, en mes gestes, en mes paroles. C'est terminé.
Si l'infidélité existe, je peux comprendre, mais si elle n'existe pas, le problème, il vient pas de toi, par exemple. Il vient de la personne qui demande le polygraphe. Parce que c'est des doutes qui sont... Peut-être
non
raisonné, peut-être fondé sur des choses que la personne peut interpréter. Là, des fois,
mais
ça va vite. Mais le problème est chez la personne qui demande de faire passer à l'autre un polygraphe.
Absolument.
Il y a une lacune au niveau de son émotivité.
Mais
au niveau de la...
il y a quelque chose qui est à la source de tout ça. Maintenant, c'est quoi? Est-ce que lui-même, il projette qu'il va le faire? Est-ce que lui-même, il n'a pas confiance en lui? Il n'a pas d'estime de lui? Est-ce que... il y a une incompatibilité. J'ai toute la misère avec ce mot-là.
Incompatibilité.
Tout le temps. Tout le fois, je le
mets. On est en équipe.
Ça va mieux à la gang. Mon chum, il va rire, là. Tu sais, des fois, c'est au niveau du caractère. Tu sais, la personne ne fait rien de mal, mais comme les deux personnalités ne fitent pas ensemble, puis ça l'insécurise affectivement.
Mm-hmm.
C'est comme quelque chose qui, je pense, qui ne s'explique pas.
Qui ne clique pas.
Ouais. Ouais. Tu sais, ça prend comme... deux hommes ensemble, là, qui, une petite symbiose, là, tu sais, mais oui, moi, je pense que dès le départ, quand on commence à douter de comme ça, il y a une essence.
C'est pas le fun ni pour la personne qui doute, ben ni pour la personne qui se fait douter. Puis j'ai déjà entendu des hommes dire « Hey, elle pense tellement que je la trompe, elle dit, je pense, il dit, je pense, j'ai quasiment le goût de le faire parce qu'anyway, là, elle va toujours douter. » Puis là, il n'y avait plus de sexualité. La relation était en train de s'effriter solidement. C'est triste, là.
Mais oui, ça devient toxique, là. Tout ça devient toxique.
Puis c'est ça. Puis dans le cas où moi, disons que... ben tu sais, ça ne m'est pas arrivé, mais disons que je serais infidèle. En fait, si j'étais infidèle, je pourrais pas être infidèle, en fait. Moi, je suis tellement dans la communication et tellement dans l'ouverture que je vois pas comment...
C'est super. C'est une belle qualité.
Comment ça pourrait arriver, là. Mais ouais, je pense que je subirais le polygraphe. Je montrerai à quel point j'ai été honnête et que la personne s'est inquiétée pour rien. Ciao, bye, merci, bonsoir. Organise-toi, va te faire soigner, là. Va travailler sur toi, sur tes blessures, puis fous-moi la paix.
Ah oui, c'est sûr que...
Moi, j'admirerais plus cette personne-là. Je pourrais plus avoir d'amour, je pense, pour cette personne-là. Là.
Ben non, parce que si elle te fait passer au travers de ça, il n'y a pas d'amour, il y a juste le vouloir d'avoir raison.
Exact.
Puis ça, c'est malsain.
Ah, oui. Ou de trouver des légers détails. Il y a peut-être des petits détails qui vont peut-être... faire dire en sorte, oh, j'avais raison, mais finalement, ce détail-là, c'est anodin.
Ouais,
on rentre tout le temps dans un. Dans une guerre sans fin, je crois.
De proposer ça à ta douce moitié, là, douce entre guillemets, c'est presque de l'aliénation quand il ne s'est pas fondé. C'est presque de mettre le désarroi de ton incapacité à raisonner les choses sur les épaules de l'autre personne, puis de dire, arrange-toi avec ça, moi, je suis pas capable, mais je t'embarque dans ma folie. C'est de l'aliénation rendue là.
Ah, oui.
C'est vraiment pas sain. Si vous vivez ça, posez-vous des questions sur votre relation.
C'est sûr, mais n'empêche que je crois, et ce que j'ai cru comprendre, M. Galianos, il confirmera tout à l'heure, pour certaines personnes, ça peut être un déclic. Pour d'autres, non, mais bon.
Oui.
Donc,
ce service existe dans les cas d'infidélité, mais également dans toutes sortes d'autres situations, notamment dans des...
croustillants, des petits détails comme...
des crimes ou des
mais avant qu'on ait là, toi, tu t'en es servi dans des relations conjugales au titre d'infidélité?
J'ai référé okay. à certains endroits.
Puis ce que tu as vu, est-ce que ça l'a aidé ou ça l'a nuit?
J'ai pas assez de statistiques parce que souvent, je prends des nouvelles. J'ai quand même plusieurs dossiers. De ce que j'ai entendu, ça l'a aidé, mais ça l'a pas tout réglé.
C'est ça. Il y a d'autres problèmes en dessous de
mais ça.
Mais lorsqu'on soupçonne que notre partenaire est infidèle, ça cache autre chose. Que ce soit réel ou pas, il y a quelque chose qu'on doit guérir, il y a quelque chose qu'on doit régler là, en dessous de ça. Donc, tu as un invité là, que tu veux nous présenter après la pause.
Oui. J'aurais aimé ça parler un peu d'histoire, mais je pense que je vais demander parce que le temps file. Ça fait comme une demi-heure qu'on est commencé. J'aimerais ça qu'il parle.
Mais je te coupais dans ton élan. Là, tu nous parlais de petits détails croustillants.
Oui, mais il n'y a pas de problème.
Tu veux peut-être y aller avant qu'on aille à la pause.
Je peux y aller rapidement, OK? Sur une petite histoire de la polygraphie. Parce que, une question comme ça, vous pensez depuis combien de temps que ça existe?
Depuis les années 80, peut-être? 70, 80?
Non. Oh. Toi, c'est quoi?
C'est une excellente question. Moi, j'irais 90.
Non, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Oui.
Wow!
Il y a trois personnes marquantes. Je vais faire ce vide.
Es-tu sérieux?
Avec la même technologie? Avec la même technologie?
La technologie a
évolué. OK.
Mais c'est pour ça que je voulais comme... C'est ça que je voulais comme un peu dire rapidement. J'aime bien ça, l'esprit de synthèse pour... faire un beau sujet là, complet. Là.
Yes.
Il y a trois personnes marquantes dans l'histoire des annales qui s'affichent avec votre thème, les annales de la polygraphie.
Oh,
mais on n'en parle presque plus d'annales!
Non, on n'a plus
on
le droit.
On en parlait trop.
On n'a plus le droit, on s'est fait avertir.
On a John Larson, William Marston et Leonard Keeler. Donc, rapidement, vite, question historique. En 1921, John Larson a assemblé le premier instrument à vérifier deux activités physiologiques simultanées avec deux sensors, c'est-à-dire un pour contrôler l'activité cardiovasculaire et un autre pour la respiration. Avant cela, M. William Marston avait déjà utilisé cette méthode-là, mais seulement avec une activité physiologique. Lui, en fait, a été plus marquant dans l'histoire par rapport à la polygraphie parce qu'il était le premier à l'utiliser pour l'identifier par rapport au mensonge et la vérité. Donc, et puis là, dans les années 30, on parle de Leonard Keeler qui a additionné un troisième sensor qui est le galvanomètre. Lui avec les aiguilles.
Oui, le fameux galvanomètre. Là.
Bon, lui qu'on
que tout le monde connaît.
Que tout le monde connaît, évidemment.
Avec les aiguilles, le fonctionnement des aiguilles, le Colombo, là, oui. Colombo, le film Colombo, oui. Là, là, qui utilise
ce qui est semblable aux échelles sismiques. Là.
Exactement. Donc, lui, Leonard Keeler, a rajouté le troisième sensor. Par la suite, on s'en va dans les années 70, où ce que là, on commence à avoir un certain attrait pour le marché de la polygraphie. Et là, on rentre des grands fabricants comme Starstring et Lafayette, qui se sont mis à produire des instruments électroniques plus compacts. Ensuite, on s'en va plus dans l'ère digitale. À nouveau, on va faire révolutionner l'instrument. Plusieurs fabricants vont offrir des instruments qui fonctionnent, mais avec un logiciel numérique qui remplace le papier et les aiguilles, comme lui, on voit dans les films. Et ce qui ressemble, ce qu'on pourrait dire à ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment le polygraphe qu'on connaît aujourd'hui.
À quoi ça ressemble aujourd'hui, le polygraphe qu'on connaît aujourd'hui?
Bien, on va le voir tout à l'heure, M. Galianos. Ah! On va faire une vidéo. Ben, si vous voulez bien, on pourrait faire un beau vidéo. Il est dans son bureau présentement.
OK.
Puis on pourrait voir son instrument. Il va vous montrer comment ça fonctionne.
Ben oui.
Puis on peut le partager.
Sur nos réseaux.
Oui, on ça va lui faire plaisir.
Sur nos réseaux. Oui, parfait.
Donc, c'est pour ça que je vais y aller vite.
De oui. Ça, moi-là, là, Mel, c'est que ben, il va falloir qu'on prenne des cours en ligne, quelque chose. Là. Nous autres, on pensait que c'était arrivé dans les années 70, 80, 90. Ça fait 100 ans.
Ça n'a pas de
on connaît donc bien rien. Mais c'est vraiment intéressant.
Ben j'aime ça. Tant qu'à parler d'un sujet, j'aime ça définir. J'aime ça prendre mon temps, faire des belles chroniques complètes.
Des belles chroniques, Jen. On aime ça.
Ben, avoir, c'est important.
Des belles chroniques.
Faut s'appliquer dans la vie.
Apporter avec qualité.
On est content.
C'est parfait. Donc, restez avec nous, puisqu'après la pause, on reçoit John Galianos, polygraphe certifié, qui va nous expliquer... un peu comment est-ce que ça fonctionne. On va avoir plein de questions intéressantes pour lui. Donc, restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98 ans Radio X.
La Sex.
La Sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
De retour avec La Sexploratrice, Max, Mel et Jen Gaudreau, détective privée, qui nous réfèrent toujours d'excellents invités durant ses propres chroniques, Jennifer. C'est vraiment un plaisir pour nous de recevoir ce soir John Galianos, polygraphe certifié, qui est au bout du fil. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Galianos, vous êtes entré au service de la Sûreté du Québec en 1968 et vous avez débuté, vous, une carrière à titre de patrouilleur pour ensuite œuvrer à titre d'enquêteur au Bureau des enquêtes criminelles à Hull. Et vous avez ensuite agi à titre de chef d'équipe à l'unité des crimes contre la personne, donc les homicides, vols, la main armée et tout ça, pour devenir finalement commandant adjoint du groupe tactique d'intervention au Grand Quartier Général de Montréal.
Yes.
Vous avez tout un CV en 1976. Vous avez été sélectionné par un comité spécial de la Sûreté du Québec pour suivre la formation de polygraphe et c'est de là que vous avez commencé finalement vos pratiques en tant que polygraphe certifié.
Oui. En fait, ce qui est arrivé là-dedans, il y a une circonstance assez spéciale. C'était en 1976, c'était l'année olympique. Hein?
Oui.
Et à l'année olympique,
à Montréal.
Le Parti québécois qui était au pouvoir en 1976, ils se sont dit on a le SWAT, on a le groupe d'intervention, on a les enquêteurs, mais on n'a pas de polygraphistes. Puis si quelque chose arrive aux Olympiques, on ne veut pas bomber rien au fédéral. Fait qu'à ce moment-là, ils ont dit on ne pourra pas former nous autres même un polygraphiste. Fait qu'ils ont ouvert un concours. Moi, j'avais levé la main. J'étais aux enquêtes criminelles à Hull à l'époque. Et ce qui m'avait bien aidé, évidemment, j'avais vécu à New York, moi, de l'âge de 11 ans jusqu'à 18 ans. Mm-hmm. Donc, évidemment, j'avais l'anglais. Hein, puis j'arrivais d'une école américaine. Donc, j'ai appliqué. Puis j'étais l'heureux élu. On m'a envoyé à Chicago suivre le cours chez Keeler Polygraph Institute en 1976. J'ai ramené ça au Québec, mais je couvrais également l'Ontario. C'est-à-dire que la police de l'Ontario, l'OPP, qui est l'équivalent de la Sûreté du Québec en Ontario, la police de Toronto et la police d'Ottawa n'avaient pas de polygraphiste. Donc, à ce moment-là, j'étais également en stand-by pour ces gens-là. Donc, j'ai œuvré à titre de polygraphiste pour la Sûreté du Québec, donc de 76 à 83. Et c'est là qu'en 83, j'ai eu une promotion pour devenir adjoint responsable des crimes de personne à Montréal. Et donc, j'ai terminé ma carrière en 1993. Mais j'avais formé ma compagnie en 1990, Galliano's Polygraph Experience.
Ouais.
Et je faisais des tests au polygraphe pour des compagnies d'assurance, pour des enquêteurs privés, des firmes privées, mais en congé. Donc, il y avait beaucoup trop de travail. Donc, à ce moment-là, je devais prendre ma retraite. Et en 1993, c'est ça, j'ai pris ma retraite pour me concentrer sur la polygraphie que j'ai fait toujours à ce jour.
Donc, vous continuez là, d'offrir vos services comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent parfois pour des histoires d'infidélité, par exemple, pour prouver là, que leur conjoint a été ou non infidèle, finalement?
Oui. J'ai plusieurs demandes. On a des demandes régulièrement, toutes les semaines, sauf que...
Toutes les semaines, vous avez des demandes?
Ah oui, régulièrement.
Wow!
Mais on les accepte pas toutes.
OK.
On leur recommande d'aller voir des conseillers spéciaux, des conseillers de famille, des conseillers matrimoniaux.
Psychologues, sexologues.
Oui, comme c'est exact. Et pour essayer de régler ce problème-là, il y en a qui disent, mais vous n'êtes pas en business, monsieur. Oui, mais l'idéal, c'est d'aller voir ces gens-là qui sont des experts dans le domaine et qui peuvent les unifier ensemble ou régler le problème. Et à ce moment-là, lorsque ça les empêche de dormir, à ce moment-là, rappelez-moi, puis je vais possiblement faire le test. Mais encore là, il faut évaluer le test.
Oui.
La possibilité. Est-ce qu'il y a un danger? Par exemple, si un membre du crime organisé a fait 6 ans de prison et à sa sortie, il me demande de tester sa conjointe pour voir si elle l'avait trompé pendant qu'elle était en dedans. Je refuserais de faire ces tests-là. La raison, c'est par rapport aux conséquences. Quelles sont les conséquences? Hein? Est-ce qu'on va la trouver lundi matin dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec? Dans le fossé. Donc, il faut réellement être consciencieux lorsqu'on accepte ces tests-là. Et souvent, j'ai de cas particuliers. Le type voulait passer son épouse au polygraphe et j'ai dit « Passez-moi votre épouse. » J'ai expliqué à madame comment que ça fonctionnait, le test, parce qu'il n'y a pas de questions surprises, et ainsi de suite. Et j'ai dit, mais si y a un problème avec le test, est-ce que avez-vous peur de votre mari? Elle a dit, non, mais si c'est bon, je ne devrais pas avoir de problème. Oui, mais si à un moment donné, on a un problème, si le test est non concluant, ou ainsi de suite, avez-vous peur? Absolument pas, M. Galliano. C'était non, je n'ai pas peur de lui pantoute. Je veux dormir, je veux qu'il arrête de m'achaler. Je veux convaincre que je n'ai pas fait ça. Évidemment, dans ces circonstances-là, il n'y a pas de problème, on fait le test. Mais si la madame, elle rentre dans le bureau, puis en rentrant dans le bureau, je vois que la madame n'est pas trop anxieuse de passer au test.
Elle fait contre son gré un petit peu, là.
Ben oui, c'est que j'ai demandé qu'il y a un cas en particulier, madame avait déroulé sa lèvre. Je voyais une marque, c'est qu'elle avait refusé le test, puis le conjoint ou le mari à l'époque, ce qu'elle a fait, il l'avait frappé.
Oh mon Dieu!
Ouais, c'est que j'ai remis son argent puis j'ai dit non, il n'est pas question de faire le test ici. Fait que c'est des cas assez délicats. C'est des cas qu'on aime moins faire, mais on évalue la situation avant de faire le test.
Et combien peut coûter pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait faire ce type de test-là?
Quand c'est les dossiers qui vont en cours, c'est 1 500 $ plus 2 $50. Mais lorsque ça ne va pas en cours, ça peut un petit peu en bas de 1 000 $.
Donc, la polygraphie est recevable en cours?
Non, en cours criminel, c'est pas admissible. Ah. Ce qui est admissible en cours criminel depuis 1987, c'est l'arrêt Bellin-Phillips qui dit qu'on veut pas, on veut pas que ça remplace le juge et le jury. Par contre, comme par exemple dans le procès de Mom-Boucher, procès assez célèbre dans la province de Québec, tous les délateurs ont passé au polygraphe. C'est une obligation gouvernementale. Parce que le procureur de la Couronne n'est pas intéressé à faire témoigner quelqu'un qui va venir raconter des mensonges à la cour. Donc, on exige vraiment qu'il soit considéré comme un témoin repentant, qui se soumettent au polygraphe, qui réussissent le test. On demande au procureur de la Couronne ce qu'il veut. C'est des policiers polygraphistes qui font ça maintenant. J'ai débuté ça au départ, mais là, ils ont des excellents polygraphistes à la Sûreté du Québec et la police de Montréal. Et je dirais également à la GRC. Mais donc, eux, ils ont la responsabilité de tester ce qu'on appelle des témoins repentants. Et des types qui ont viré leur veste, qui disent maintenant dire la vérité, qui implique. Donc, à ce moment-là, ces gens-là sont testés. On les soumet au polygraphe. Les juges le savent. Les avocats de la défense le savent, parce qu'on ne peut pas rien le cacher. On appelle la divulgation de l'enquête. Mais les jurys ne doivent pas le savoir que ces gens-là ont réussi le test. Parce que on veut que le juge, le système veut que les procureurs, que les jurys ne donnent pas sa switch, comme on dit, qui évaluent chaque témoin et qui se prononce sur la crédibilité des témoins. On ne veut pas que ça influence les jurys. En matière civile, c'est une autre affaire. Il y a des jugements favorables, il y a des jugements non favorables. Il y avait un dossier, entre autres, où ça a été refusé. Parce que le polygraphiste n'avait pas inscrit ce qu'on appelle la fiabilité du test. Ça a été jusqu'à la cour d'appel. On a refusé le test polygraphique.
Qu'est-ce que ça veut dire?
On n'a pas écrit la fiabilité du test, les études scientifiques, et ainsi de suite. Maintenant, les polygraphistes inscrivent la fiabilité du test. Et la fiabilité du test, faut savoir que, parce qu'on... Je dois vous dire ça, là, c'est que c'est une des questions qu'on demande souvent. Est-ce qu'on peut se fier sur le polygraphe? Et est-ce qu'on peut pendre quelqu'un sous la foi d'un test?
Combien de pourcentage est-ce fiable?
Oui, c'est entre 86 et 94. Puis c'est pas moi qui dis ça, c'est la
pas loin.
Mais justement, au niveau de l'efficacité... Peut-être que vous pourrez nous éclairer sur la méthodologie exacte de comment ça fonctionne et des tenants et aboutissants, mais j'ai l'impression que ça se fie surtout sur le corporel, sur l'émotivité. Quand on parle du milieu criminel, on parle aussi de sociopathes, de psychopathes, de temps à autre, des gens qui sont aptes à mentir et à contrôler leurs émotions de façon exemplaire. Est-ce que ce serait possible pour quelqu'un de déjouer le polygraphe, d'être assez en mesure de ses capacités corporelles pour justement pas laisser transparaître les mensonges?
Qu'est-ce qui pourrait nuire à l'exactitude d'un test polygraphe?
C'est une excellente question, Tim. Ce qui arrive, c'est que le polygraphiste peut se tromper. OK? À présent, le problème qu'on a, c'est avec les gens qui ne sont pas intelligents, qui ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Généralement, ces gens-là ne sont même pas soumis au test au polygraphe. Il y avait un individu qui avait poignardé sa mère de 154 coups de couteau. Ben, j'ai demandé, c'est-tu toi qui appelles ça? Ben, on va le voir, hein? On va le voir.
Il ne comprenait pas les questions.
C'est qu'à ce moment-là, ils ont un problème. Ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. À ce moment-là, ils sont réellement. Ce ne sont pas des bons sujets au polygraphe. Mm-hmm. Après, concernant les psychopathes, c'est souvent des personnes très, très intelligentes. Ce sont des personnes qui sont charmantes et ainsi de suite. Et c'est pas nécessairement une personne qui est dérangée mentalement comme telle, comme on voit un malade mental, comme on dit. C'est pas ça. Il y a des gens qui sont sharp là-dedans. Mais il y a une étude, puis ça, vous allez avoir ça sur Internet, qui a été faite par le Dr. Hare, H-A-R-E, qui est une sommité mondiale sur les psychopathes, et le Dr. David Raskin, qui est une sommité en polygraphie. Et en 1978, ils ont fait une étude avec 48 prisonniers, dont 24 étaient catalogués psychopathes. Ils ont pris 12 de ces 24-là, ils les ont mis dans la gang de ceux qui vont voler de l'argent. Et l'autre 12, ils les ont mis dans la gang des personnes qui sont innocentes. Finalement, ce qui est arrivé, il y a eu une marge d'erreur, il y a eu une erreur de 4 %. Il y avait 2 % chez les psychiatres, chez les psychopathes. Il y avait également 2 % chez ceux qui sont considérés comme normaux. Ouais. Donc,
okay, fait que ce qu'on entend, ce n'est pas nécessairement vrai. Et au niveau du formulaire de questions, comment vous procédez pour établir quelles questions vous posez à qui?
Oui, c'est établi, ça. Si on fait un dossier avec un avocat de la défense, par exemple, qui veut démontrer, lui, que son enfant, pas son enfant, mais que son client n'a pas fait tel geste. À ce moment-là, lorsque la personne est accusée à la cour, ça me prend absolument la divulgation de la preuve. Par exemple, si l'enfant dit « Grand-papa m'a attaché après un arbre », j'ai besoin de cette information-là pour poser la question. Mm-hmm. Avez-vous attaché... le petit François après un an. Et ça me prend la divulgation de la preuve. J'avais fait le dossier, par exemple, d'Adil Charkaoui en 2004, qui était un terroriste. Moi, j'avais besoin de les avocats. Le maximum d'informations qui avaient été transmises par la police. Mais encore là, avec les certificats de sécurité, ils sont limités. Il n'y avait pas toute l'information. Et quand j'avais témoigné en cour fédérale, le juge m'avait demandé, il avait demandé s'il était dans une école d'entraînement. Je disais, on ne m'a pas demandé ça. Donc, mes questions, c'était, avez-vous déjà participé à des actions criminelles pour aider les terroristes? Avez-vous déjà été membre d'un groupe terroriste? Êtes-vous présentement membre d'un groupe terroriste? C'était les questions principales. Donc, excusez, ce que ça nous prend, c'est le maximum d'informations pour poser les bonnes questions.
Mm-hmm. Oui, mais justement, comment vous établissez ce formulaire-là? Est-ce que c'est votre responsabilité d'établir des questions qui rentrent en opposition les unes avec les autres? C'est quoi le raisonnement en arrière des questions?
Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas comme un compte d'interrogatoire. Donc, admettons que l'avocat me dit, mais moi, je veux savoir si j'ai eu des attouchements de nature sexuelle avec le petit Johnny. Bon, OK. C'est que, évidemment, lorsque le sujet rentre, on revise des questions du test que j'ai revisé avec l'avocat. Puis il y a du trois rangs de questions. Puis le test même, il n'y a pas beaucoup de questions sur le test. Vous allez avoir trois ou quatre questions pertinentes. Et qui sont soit, c'est, normalement, on appelle ça « specific issue » ou « une issue spécifique », c'est sur le même événement. Et qui se termine probablement par « non ». Il va y avoir trois ou quatre questions. Il va y avoir également trois questions où est-ce qu'on le sait que la personne ment. On appelle ça un mensonge dirigé. Par exemple, avez-vous déjà menti dans votre vie? Vous allez dire non. Avez-vous déjà perdu patience? On a tous perdu patience. Vous allez dire non. Avez-vous déjà commis une infraction au code de la route? Vous allez dire non. Et également, il va y avoir les questions telles que votre prénom est-il François? Votre nom de famille est-il Tremblay? Demeurez-vous dans la province de Québec? Et les questions sont séparées d'une vingtaine de questions, de secondes. Donc, après 4 minutes, parce qu'on fait un passage sanguin à la partie supérieure du bras gauche, on ne peut pas aller passer environ 4 minutes. Et ils allaient avoir 2 tubes en caoutchouc sur le thorax pour la respiration, 2 petites cuillères à ses doigts pour les sueurs, et également un oxymètre de pouls comme dans les hôpitaux. Les oxymètres de pouls, c'est un backup du brassard sanguin. On appelle ça le platysmographe pour la pression sanguine. Et également, il y a ce qu'on appelle un pad. La personne est assise sur un pad de contre-mesure. Parce que sur Internet, ils montrent aux gens comment bouger pour essayer de fausser le test. Mais le manufacturier s'est ajusté à ça, lui. Donc, on voit que lorsque la personne tente de faire des manœuvres physiques pour tromper le test. Et le test est fait minimum à 3 reprises. Si après 3 reprises, il n'y a pas assez de data, c'est 3 tests de 4 minutes, là. C'est s'il n'y a pas assez de data, là, on va aller à 5 reprises. C'est ce que la science veut, la technique Utah, qui est la technique numéro 1 au monde, là. Et à ce moment-là, on donne le résultat en dedans de 5 minutes. On peut avoir un résultat verbal assez rapidement.
Wow.
On a également un scoring numérique. Pardon, tout ce qui finit par plus 3, plus 4, plus 5, ça, c'est vérité. Moins 3, moins 4, moins 5, en descendant, c'est mensonge. Et entre moins 2 et plus 2, c'est la zone grise qui veut dire on ne le sait pas, je ne le sais pas. C'est non concluant. Si c'est non concluant, la personne peut toujours revenir pour un test gratuitement. On a également un algorithme mathématique. On compare les tracés avec 1411 cas des fiches du FBI et de 8 autres corps policiers américains. Ce sont des cas, les 1400 cas, ce sont des cas qu'on connaît avec certitude le résultat. Ils ont choisi ces dossiers-là. Et par exemple, il y a 50% qu'on le sait qui sont menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont confessé. Mais confessé avec corroboration. Par exemple, j'ai tué Suzanne, je vais vous montrer où est-ce que je l'ai enterré. On trouve le cadavre. Je ne peux pas dire plus tard, ben, j'ai dit n'importe quoi pour sortir de la prison ou de sortir du poste de police. J'ai volé de la Brinks. Mon 300 000 est en dessous du lit de mon fils. On trouve le 300 000. Donc, je ne peux pas dire plus tard, c'est une fausse confession. Et également, lorsque j'ai tiré la personne, j'ai jeté l'arme à feu en bas du pont. On trouve l'arme à feu. Donc, à ce moment-là, ça corrobore. Lorsqu'une personne dit « j'ai fait ça », c'est pas assez. Ça prend de la corroboration. Il faut aller chercher du backup, comme on dit. Et lorsqu'on témoigne à la cour, à cour criminelle, le polygraphiste qui témoigne, disons, pour la couronne, à ce moment-là, il ne témoigne pas sur l'opinion polygraphique. Ce n'est pas admissible, ça. Il témoigne sur la confession. Okay. Lorsque la personne est rentrée dans le bureau à 10 heures, est sortie du bureau à 13 heures, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est fait? pour est-ce qu'on a forcé la personne à parler? Est-ce que c'était une déclaration libre ou volontaire? C'est ce que le juge va évaluer.
Et est-ce qu'on doit être majeur pour passer le polygraphe? Le client le plus jeune que vous avez eu, là, vous, personnellement, c'était quel âge?
C'est déjà arrivé à 11 ans. Oh. Puis c'est ça, c'est parce que puis c'est un enfant mature. Mais normalement, c'est 13-14 ans, mais avec la maturité. Mais ça, c'était un dossier, entre autres, de menace d'aller tuer des gens dans une école. Mmh. Et le père est avocat. Il exigeait lui-même de le faire tester son fils. La maman est avocate également. Et on voulait s'assurer que, on voulait voir si c'était vrai, ce qu'on prétendait. Et à ce moment-là, il exigeait eux autres le test polygraphique. Maman l'assistait au test à ce moment-là.
OK.
Mais généralement, on est tout seul avec les gens là, lorsqu'on fait un test.
OK. Et est-ce que vous êtes plusieurs polygraphes comme ça au Québec? On peut compter combien de polygraphes?
Il y en a 5-6 dans le privé. Il y en a environ 5-6 à la Sûreté du Québec. Il y en a, je pense, 3 à la Ville de Montréal. À la Ville de Québec, il n'y en a pas. En Ontario, de la GRC, on a une quarantaine, je pense, 40-50 de polygraphistes, quoi.
Et parmi les cas connus, là, vous en avez nommé déjà quelques-uns, est-ce qu'il y en a d'autres, des personnalités publiques que vous avez eu la chance, si on veut, de passer sous votre polygraphe?
Il y a Eric Salvaille, il y en a d'autres que je ne veux pas mentionner parce qu'ils ont sorti menteurs. des connus. Ce sont des tests confidentiels qu'on appelle.
Est-ce que j'ai le droit de vous demander si c'était dans le cadre du mouvement MeToo?
Oui, c'est exact.
Ils sont sortis menteurs. Donc la liste, il y en a une couple là-dessus.
Il y en a dedans qui ont sorti menteurs, il y en a d'autres qui ont sorti véridiques. Il y avait évidemment des dossiers de meurtre, des dossiers d'homicide. Dans la région de Québec, il y avait le dossier de France Alain. Il y avait également Pimperie-Guérin, l'affaire du Pont-Rocartier. Ils ont assassiné deux enfants, ils les ont jetés en bas du pont. Ça, c'est le 3 juillet 1979.
Un livre a été écrit là-dessus, hein? C'est quelle histoire d'horreur.
Ouais, c'est triste, hein? Des pauvres parents là-dedans. Hein. Des parents des deux parts. Hein. Des parents des coupables aussi. Là. C'est triste pour les parents aussi.
Vraiment.
Et puis les victimes.
Hein. Oui, tout à fait. Monsieur Galianos, vous baignez dans ce domaine-là depuis presque toute votre existence. Vous avez une expertise là-dedans qui est incroyable. C'est fascinant de vous écouter. Et j'ai envie de vous poser une question qui est presque à caractère philosophique. Pour vous, parce que vous êtes toujours dans le vrai et le faux, ça représente quoi le concept de vérité? Pensez-vous qu'il y a une vérité absolue?
Écoutez, vérité absolue, il y a des gens qui ont leur vérité, mais que ce n'est pas nécessairement la vérité. Il y a des gens qui croient réellement, qui ont fait la bonne affaire. Hein. Ça, on voit ça dans la politique également. Puis ils se sont rendus compte par la suite, j'ai peut-être fait une erreur. Mais il y a des gens qui vont vous regarder dans les yeux, puis ça sonne vrai. Là. On sous-estime.
Ouais.
Ça, c'est le grand défaut chez les enquêteurs, puis ça, je leur dis, c'est qu'on sous-estime l'habilité des gens de mentir. Il y a des gens qu'on a passés au polygraphe. Dans la rivière du Loup, il y a un monsieur qui avait plusieurs années qui avait été assassiné, un chauffeur de taxi. Puis il y avait des gens de la région aussi qui avaient été soupçonnés là-dedans. C'est des gens une personne entre eux qui sortait du pénitencier, puis je le passe au polygraphe, puis j'étais dans mes premiers tests, et il sort non véridique, puis je discute avec lui, puis il se met à pleurer, puis il dit, j'ai pas fait ça, gros coup de poing sur la table, j'ai pas fait ça, monsieur, je vous jure, j'ai pas fait ça, faites ce que vous avez à faire, écrivez ce que vous voulez, j'ai pas fait ça. Très convaincant, qui me mettait en doute mes graphiques. J'étais jeune, hein? J'étais jeune polygraphiste. Mais les policiers, il y avait de l'écoute électronique d'urgence. Et en sortant de Partenay, il a appelé un de ses chums. Il dit j'ai failli avouer, t'aurais dû voir le curé que j'ai rencontré.
C'est ça, il y a un moment où quand on croit tellement nos mensonges que ça devient une vérité, c'est une vérité en soi.
Est-ce que ça se peut de se convaincre au point où on pourrait faire démentir le système?
Exact.
Convaincant.
Convaincant.
Mais encore là, la preuve, finalement, Ils l'ont suivi, puis ils ont cogné à la porte quand il a rencontré son chum, puis ils ont dit « Peek-a-boo ».
On pose les menottes, mon gars.
Hello!
mais si jamais je vous pose la question à vous, là, avec toutes les connaissances et l'expertise que vous avez relativement à la polygraphie et au polygraphe, jamais je vous demandais de déjouer le polygraphe, seriez-vous capable de le faire?
Oh là là,
bonne question!
Je sais ce que les gens tentent de faire, puis ils vont essayer toutes sortes d'affaires. Sauf que les polygraphistes sont informés de ça. Ils sont enseignés là-dessus comment combattre ce qu'on appelle des contre-mesures pour essayer de fourrer le test. C'est un peu l'analogie. Si vous voulez tromper l'ivresse à maître, mettez votre langue sur le trou, faites semblant de souffler. Mais le policier est au courant de ça. Il voit ce qui se passe. On appelle ça des contre-mesures. En polygraphie, il y en a plusieurs qui font ça. Ils vont essayer ça. Puis la meilleure contre-mesure, que moi je conseillerais aux gens, si vous êtes impliqué, allez pas au test. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, soyez sans crainte. Les polygraphistes de la police aujourd'hui, là, moi, je vais vous dire, sont hautement spécialisés. D'ailleurs, ils sont choisis parmi le 1% de la police. C'est les meilleurs interrogateurs. C'est des gens qui ont prouvé leur expertise en témoignage devant les tribunaux. Excellent enquêteur. C'est que si vous dites la vérité, soyez sans crainte.
Mais là, vous ne répondez pas tout à fait à
non,
la question.
Non, exactement. Vous ne répondez pas du
Est-ce que vous seriez capable, selon vous, de déjouer le polygraphe?
Voyez-vous, je pourrais essayer. Un bon polygraphiste, parce qu'il faut comprendre que le facteur dominant en polygraphie, c'est la crainte du dévoilement. Mm-hmm. Et si j'ai fait quelque chose que je risque la prison, puis je l'ai fait, bien, je me présenterai pas au test. Mm-hmm. Mais si
c'est quelque chose de banal, vous seriez peut-être capable de le déjouer.
Peut-être, encore là, les affaires banales, le polygraphe n'est pas utilisé pour des affaires banales, parce que le facteur dominant en polygraphie, c'est la crainte du dévoilement. Ça prend de l'enjeu, c'est un test psychophysiologique. Lorsqu'une personne meurt, il y a un message qui part du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, une section. Ça envoie un message aux glandes surrénales qui vont sécréter l'hormone les plus fortes dans le corps humain, qui est l'adrénaline. Hein.
Ouais.
C'est un peu comme vous marchez dans le bois avec votre conjoint ou votre conjointe, puis il y a un ours qui sort. Là, vous savez qu'un ours, ça peut grimper un arbre, on ne sait plus quoi faire. Les trois R qui arrivent, fight, flight, or freeze, hein, le système de combat ou chute.
Ouais.
Le système de votre respiration, là, est réduite, votre battement cardiaque monte, les sueurs montent, jusqu'à temps que l'animal retourne dans le bois. Hein? Ou non, un autre exemple, vous roulez assez rapidement, vous êtes pressé pour aller quelque part, vous faites un stop américain, sur le coin de la rue, vous voyez un char de police. Oh, mais c'est flasher, qu'est-ce que vous faites?
Ben oui. On s'occupe pas même si on n'a rien fait.
Moi, j'ai une question. Si on y va dans la même logique, M. Galliano, j'ai une question. Si on y va dans la même logique, si une personne est extrêmement nerveuse de tout, puis elle n'a rien commis, mais elle pense le test, puis est tellement ses nerfs que finalement, elle a l'air de quelqu'un qui m'aime et c'est parce qu'elle a de la difficulté à gérer tout ça. J'imagine que ça arrive.
Oui, c'est une excellente question. C'est que ça m'a été demandé souvent en cours, évidemment. C'est que ce qui arrive, c'est que les polygraphistes sont bien formés pour voir. On a un système qui s'appelle un safety valve, qu'on appelle. On appelle ça le test non concluant. Okay. Parce qu'on ne peut pas se prononcer à ce moment-là.
Puis avec les tests initiaux là, aux 4 minutes, là, des trucs comme ça, ça vous permet aussi de mesurer là, les...
Oui, parce que on veut voir où est-ce qu'il réagit plus fort. C'est sûr que, est-ce que c'est aux questions diagnostiques, quand on demande à la personne de mentir, ou aux questions pertinentes. Et si la personne est trop nerveuse, par exemple, une personne qui est interrogée par les membres de famille, OK? Puis tu vas aller au polygraphe, une affaire de sexe, on va dire, sur un enfant. Mm-hmm. Puis ça fait 2 jours qu'on le pointe du doigt, bien c'est certain que c'est pas un bon sujet pour le polygraphe. Le polygraphiste va le voir facilement. Il va dire que c'est un test non concluant. Ou, encore mieux que ça, il peut dire qu'il n'est pas testable. On ne peut pas le passer au polygraphe.
Fait qu'il faut être prédisposé.
L'affaire que je vais vous dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des faux positifs et des faux négatifs.
Okay. Mm-hmm.
Donc, il y a 5 à 10 % qu'on dit non concluant.
Okay.
On dit que 86 à 94 donc pour une moyenne de 90 ça fonctionne. Il y a également un 5 de faux positifs. Ça veut dire ça que puis encore là, c'est pas moi qui parle, c'est la science, c'est que 2,5% de faux positifs. Faux positifs, c'est si je dis que la personne est menteuse alors qu'elle ne l'est pas. Okay? Ça, ça peut arriver. Un faux négatif, c'est quand on dit non, il est correct alors qu'il n'est pas correct. C'est que c'est dans la science. Présentement, il y a eu des études également qui ont été faites de l'Université de Virginie. Ils ont comparé ça, comparé le polygraphe avec d'autres appareils qui sont utilisés à la cour régulièrement ou qui sont utilisés par les médecins comme en radiologie.
Mm-hmm.
Les scans, les MRI, les rayons X. Okay? C'est vrai, vous savez que les rayons X, puis je ne suis pas médecin, mais c'est les médecins qui viennent nous parler de ça. C'est la précision de ça, c'est pas 100%. Ça peut aller jusqu'à 90%. Donc, les appareils utilisés pour déterminer si la personne a des problèmes de santé mentale également, encore là, c'est pas 100%. Bon, on le voit, vous avez eu un procès, là, parce qu'il y a des psychiatres qui vont dire blanc, d'autres qui vont dire noir. Hein?
Mm-hmm. Ouais.
Le même dossier. Donc, la polygraphie, c'est pas différent que ça. C'est pas 100%.
On parle des appareils, on parle des problèmes de santé mentale, mais quand on parle aussi de, par exemple, quelqu'un qui arrive sous calmant ou qui a fumé un joint...
Parce que c'est légal.
Est-ce que ça peut fausser aussi les résultats?
Non, au contraire. Tu peux le faire, ça l'aide. Ça va aider le polygraphiste.
Ah oui?
Il y a moins d'inhibition.
Ah ouais.
OK. Ouais,
donc... Encore là, ce qu'on recommande aux avocats, je fais beaucoup de tests pour les avocats de la défense, c'est que de dire au client de continuer à prendre ses médicaments, de rester dans sa norme physiologique. Il y en a qui sont présentés déjà, puis j'oubliais de le dire à l'avocat ou au client, de rester dans ta norme physiologique. Il y en a qui disent, ben oui, je prends des médicaments, mais je ne l'ai pas pris depuis 2 jours par rapport au test. Je ne voulais pas que ça nuise au test. Au contraire, mm-hmm. On veut que la personne continue à prendre ses médicaments.
OK. Moi, j'aimerais bien ça, essayer ça un jour, M. Galianos. Est-ce que vous nous accepteriez dans vos bureaux, moi et Max? On pourrait faire un beau petit vidéo.
On monte à Montréal.
On a cette demande-là souvent, sauf que vous allez voir comment est-ce qu'on attache les gens, ces choses-là, mais on ne peut pas arriver avec un vrai test parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de crainte du dévoilement. Ça prend un enjeu. Autrement dit, si vous avez volé la Rolex à quelqu'un puis vous risquez de perdre votre emploi et risquez d'être accusé à la cour, évidemment, ça va fonctionner. Il va y avoir le système de vote autonome, si ouais. M'intéresse.
Bon, mais on va commettre un crime puis on va vous revenir.
On va demander à Pee-Wee. Peut-être que Pee-Wee veut élucider quelque chose, là, hein?
Non, je pense pas. Merci beaucoup, M. John Galianos, polygraphe certifié, qu'on peut rejoindre également au galianospolygraphe.com. Donc, vous offrez vos services toujours là, à ce jour, donc pour les gens qui voudraient.
Demain, je pars pour l'Europe là, dans 3 semaines là, pour faire des tests là-bas. On est ouvert partout.
Incroyable.
Et super.
Merci beaucoup.
Super hot. Hey, merci, M.
Merci
Galianos.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette belle invitation, d'avoir pris du temps pour nous. C'est vraiment très, très apprécié. Merci beaucoup, Jen Godreau, détective privée, qu'on va revoir dans un mois, encore une fois, avec un autre invité de fun.
Oui.
Et merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. C'est toujours grâce à vous qu'on peut pratiquer ce métier qu'on aime tant. Et Max, toujours un plaisir.
Juste avant qu'on se laisse, était-tu bon, lui?
Hey, on l'aime, hein?
Ouais. On l'aime-tu?
On l'aime.
Comment?
N'oubliez
pas votre petite vidéo, hein? On va faire
on va lui demander une petite vidéo, puis on va vous partager ça là, dans les prochains jours sur les réseaux sociaux.
Puis merci à toi. On te le dit jamais. Merci,
Mel. Merci.
La gratitude, les pierres magiques. Ouais, on se dit merci. On est là-dedans.
Merci tout le monde. On vous souhaite une magnifique fin de soirée. C'est un rendez-vous. Demain, on reçoit Cathy Savard, qui est travailleuse sociale, intervenante sociale également, qui va nous proposer différentes formes de méditation pour aider les gens avec des problèmes de santé mentaux, mais également Mélanie Boucher. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'accident de Tadoussac, l'autocar qui s'est écrasé sur traversée de Tadoussac.
C'était son mari, j'imagine?
La personne qui l'accompagnait est décédée.
Oh là là.
Et elle s'en est sortie, mais pas facilement. Elle se remet encore aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années de ça. Mais Mélanie va venir nous parler demain de son histoire et va nous parler de ce qu'elle fait présentement. Donc, elle participe au beau 4 heures avec Martin Matt, notamment. Donc, on la reçoit également en deuxième bloc demain. Ratez pas ça. Ça va être hyper touchant.
C'était un incroyable accident. Ça avait tellement fessé.
Écoute.
Les images étaient invraisemblables. On n'avait pas l'impression que c'était vrai tellement ça avait fessé.
Non, exact. Donc, je vais repartager là, des extraits de ça demain et on la reçoit demain soir. Donc, on reçoit Mélanie.
Ça va être intéressant.
Qui, oui, qui a dû tout réapprendre, hein, repartir à zéro complètement. Donc, profitez de chaque moment auprès de ceux que vous aimez. Dites aux gens que vous aimez combien vous les aimez. Appréciez la vie, mesdames et messieurs. Moi, il me reste à peu près 13 000 jours, là. 12 999,
bon,
à peu près.
Bon, elle
recommence. Vive la vida! C'était la sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.